soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et continuer notre parcours, notre étude sur l'évangélisation. J'aimerais avec vous lire deux textes dans les Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous avez lu récemment le livre des Actes des Apôtres. En tout cas, c'est un livre extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que les Actes des Apôtres continuent encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, dans ce temps où il nous faut répandre l'Évangile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, acte 13, on va lire deux passages, un dans le chapitre 13 et un autre un peu plus loin. Acte 13. Il y avait dans l'église de Toulouse de Saint-Agne, d'Antioche, excusez-moi, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Va commencer donc le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas, qui vont se séparer après, mais ils vont commencer par Chypre et après aller au sud de la Turquie. Et puis, nous lisons au chapitre 15, verset 40, juste après que Paul et Barnabas se sont séparés, verset 40, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les disciples se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile direction vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district des Macédoniens et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. S'arrêtez là. Jésus-Christ, comme je le disais tout à l'heure, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des actes des apôtres n'est pas fini. Et tant que l'Église n'est pas enlevée, l'Église a toujours la même mission qu'initialement, qu'à l'origine. Nous avons pour mission, eh bien, celle de répandre l'Évangile et de faire de toutes les nations des disciples. On pourrait se dire, il y a le temps, on pourrait se dire, on n'est pas prêt, mais rappelons-nous ce que Jésus avait pu dire, déjà il y a 2000 ans en arrière, à ses apôtres. Vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais regardez les champs qui blanchissent déjà. On peut se dire, il y a encore 4 mois. Non. Jésus nous dit que c'est le moment, car les champs blanchissent déjà. Que Dieu soit béni pour ces textes de la parole de Dieu, ce livre des Actes des Apôtres, qui nous montre les premiers temps de l'Église et comment l'Évangile s'est répandu dans tout le monde connu de l'époque. Et bien sûr, il y a d'autres faits qui se sont déroulés dans l'histoire de l'Église, qu'elle soit récente ou plus ancienne. On connaît les premiers temps de l'Église jusqu'au chapitre 13. Il y a certains hommes qui sont mis en avant, l'apôtre Pierre, Jean, et puis nous avons parlé aussi de Philippe, il est parlé aussi d'Étienne, et puis à partir du chapitre 13, il est parlé de toutes ces missions de l'apôtre Paul. Mais bien sûr, il y a eu d'autres apôtres qui ont évangélisé d'autres régions du monde. L'Évangile ne s'est pas arrêté, au contraire, il a gagné du terrain. N'oublions pas ce que nous avons vu lorsque nous avons commencé cette étude, qu'en fin de compte, Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a été envoyé avec la puissance du Saint-Esprit, nous aussi, et nous sommes envoyés par amour, de même que le Père a envoyé son Fils par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin avec vous, j'aimerais aborder, et ça sera, faire une grande étude là-dessus, parce qu'en fin de compte, il n'y en a pas trop. Je vais parler ce matin un peu des stratégies et des méthodes, mais n'attendez pas de moi de grandes révélations. N'attendez pas que je vous explique de grandes stratégies et de grandes méthodes. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit en fin de compte qu'il n'avait pas de grandes stratégies, qu'il n'avait pas de grandes méthodes. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais c'était assez simple. Les choses se sont passées d'une manière assez simple, mais il y avait surtout la puissance du Saint-Esprit qui les accompagnait. Il y a 2 directions majeures dans l'évangélisation. Une, que nous avons déjà parlé, c'est par relation, et une deuxième, par intrusion. La première, par relation, comme je le disais déjà, et il s'agit de toutes ces personnes que nous connaissons, que ce soit les membres de notre famille, que ce soit nos voisins, que ce soit peut-être nos collègues de travail, enfin, tous ces gens que nous côtoyons plus ou moins et envers qui, eh bien, nous sommes aussi appelés à témoigner de notre foi. Et là, plus que nos paroles, nous l'avons déjà vu, nos comportements, notre attitude, notre manière de vivre témoignent que Christ est dans notre vie et qu'il a changé notre vie, témoigne de ce que Jésus a fait sur la croix, que son nom soit béni. Nous voulons donc considérer que Dieu nous confie ces personnes que nous pouvons côtoyer plus ou moins régulièrement, et c'est ce qui aussi amène beaucoup d'âmes au Seigneur. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas. À Toulouse, il y a des centaines de milliers de personnes dans la région aussi. Mais il est évident que toutes ces centaines de milliers de personnes qui habitent la région, beaucoup ne connaissent pas de chrétiens authentiques. Il nous faut donc aller vers eux. Et c'est là que entre en jeu, eh bien, certaines peut-être méthodes, puisque on va agir envers des personnes que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas en relation avec eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est par intrusion. C'est-à-dire, on n'est pas dans leur cercle de connaissances, mais nous sommes appelés quand même à aller vers eux, puisque Jésus nous dit « Allez !» Et il nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que ça a commencé à Jérusalem, c'est-à-dire l'endroit où tout a débuté et l'endroit que les premiers apôtres, les premiers disciples connaissaient, où ils avaient beaucoup de connaissances. Il y avait la Jérusalem, il y avait la Judée, puis après il y a eu la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Donc dans des terres inconnues, vers des personnes qu'ils ne connaissaient pas, vers des cultures qu'ils ne connaissaient pas, vers des langues qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont dû apprendre. C'est vrai que dans tout l'Empire romain, il y avait une langue qui était commune à tout cet empire, que l'on parlait plus ou moins. Comme aujourd'hui, il y a l'anglais, avec l'anglais on peut aller un petit peu partout, et puis il y a tous ces pays francophones, il y a tous ces pays hispanophones, etc. Donc il y a des langues qui sont connues dans différents pays. Mais il n'y avait pas que l'Empire romain, il y avait d'autres pays où d'autres langues aussi étaient inconnues. Il leur fallait donc apprendre ces langues pour pouvoir leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Aller vers eux, c'est donc un acte intentionnel, un acte volontaire. On décide d'aller vers des personnes pour leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, nous voulons saisir toutes les occasions que le Seigneur met sur notre chemin. Lorsque nous lisons les Évangiles, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, on voit aussi ce phénomène, c'est que Dieu est dans l'affaire. Et Dieu est un Dieu providentiel. Dans la mesure où notre volonté, dans la mesure où nous avons décidé d'aller vers des personnes, Dieu va aussi faire en sorte que nous rencontrions des personnes d'une manière ou d'une autre. Nous voyons cela dans les Évangiles. Par exemple, Jésus, chemin faisant, pour aller vers la maison de Jaïrus, parce que sa fille est malade, et puis le temps que Jésus arrive, elle va décéder. Sur ce chemin-là, va y avoir une rencontre, j'allais dire, qui n'était pas prévue dans l'agenda humain, mais qui était prévue dans l'agenda divin. C'est cette femme atteinte d'une perte de sang. Et lorsque nous sommes en chemin, j'allais dire, pour servir le Seigneur peut mettre sur notre route des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui ont besoin du Seigneur, des gens qui le cherchent, et nous n'avons plus qu'à leur parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a donc ces occasions qu'il ne nous faut pas rater, que Dieu met sur notre chemin. Une petite anecdote qui me fait parfois sourire. Lorsque nous étions à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était un petit local où il y avait, on pouvait accueillir une trentaine de personnes maximum, puisque c'était dans le cadre d'une implantation d'église. Et puis, la vitrine de l'église donnait sur la rue, et j'étais dos à la vitrine quand je prêchais, et puis l'auditoire voyait tout ce qui se passait dans la rue. Sauf que pendant la prédication, le voisin d'en face, qui venait pas à l'église, a accidenté ma voiture. Moi, j'ai entendu un bruit, alors les autres qui voyaient là, les frères et sœurs ont vu ce qui se passait. Il a accroché ma voiture avec son attache-remorque. C'était un gros 4x4 comme ils ont là-bas. Et il pouvait plus se défaire de ma voiture et la voiture était tirée. Donc, bien sûr, heureusement, c'était à la fin du culte. Alors, je sors, je vois un petit peu ce qui se passe. Et puis, la personne me dit texto comme cela. Voilà ce qui se passe lorsque le dimanche matin, au lieu de venir à l'église, on veut bricoler sa voiture. Alors là, j'ai saisi la balle au vent. Bien sûr, j'ai pas raté l'équation. Le dimanche d'après, Il était à l'Église. Merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Il fait des choses extraordinaires, non seulement lui, mais aussi il a amené sa petite fille, que Seigneur soit béni. Il y a, je pense que nous l'avons tous vécu comme cela, des occasions sur notre chemin. Le Seigneur met sur notre chemin des personnes et nous ne voulons pas rater cette occasion. Mais bien sûr que ces occasions, qui sont quand même assez nombreuses, il faut le dire, ne constituent pas à elles seules tout, j'allais dire, les possibilités que nous allons avoir pour aller vers les autres. Il y a bien des moyens, bien des choses que nous pouvons mener pour nous trouver sur le chemin de certaines personnes. J'aimerais lire avec vous un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Livre des Proverbes, au chapitre 8. C'est un texte aussi que j'avais lu au conseil d'administration, il me semble que c'était en janvier. Proverbes, excusez-moi, chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez l'intelligence, etc., etc. Ici, la sagesse est personnifiée, et il nous est dit qu'elle crie, qu'elle est au sommet des hauteurs. Donc ainsi, elle est bien vue et elle est bien entendue. Il faut que notre message soit bien vu, que notre message soit clair, que notre message soit entendu. Ce que j'aimerais noter, c'est que la sagesse, elle se tient à la croisée des chemins. C'est important de se tenir à la croisée des chemins afin que les personnes puissent changer de chemin et prendre le chemin du ciel. Prendre le chemin qui s'appelle Jésus. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est important de considérer cela afin que nous puissions, j'allais dire, intercepter ces personnes pour qu'ils puissent accepter l'Évangile. Jésus allait de village en village, de lieu en lieu. Nous voyons Jésus dans les maisons, nous voyons Jésus dans les barques, nous le voyons même dans les déserts. Curieux, mais pourquoi dans les déserts? Il n'y a personne dans les déserts. Je me suis aperçu en Tunisie qu'il y a eu du monde dans des régions désertiques. Je ne sais pas si vous avez connu des endroits pareils, mais c'est toujours étonnant. On est sur la route, dans un endroit désertique, on ne voit personne. C'est désertique. Pour peu qu'on s'arrête sur le bord de la route, vous voyez en peu de temps 5-6 personnes qui débarquent, vous ne savez pas d'où ils viennent. Alors, ceux qui connaissent l'Afrique savent un peu de quoi je parle. On ne les voit pas. Vous vous arrêtez quelque part, de suite, en l'espace de quelques minutes, il y a un attroupement autour de vous. Dans les déserts, il y a du monde. Il y a du monde dans les déserts. C'est là que je me suis aperçu qu'en fin de compte, celui qui crie dans les déserts est quand même entendu. Dans les lieux publics, on voit Jésus, dans les synagogues, on voit Jésus dans le temple. Enfin, Jésus allait partout à la croisée des chemins. En lisant les Actes des apôtres, nous voyons aussi les apôtres faire de même. On les voit dans les synagogues, on les voit dans les rues, on les voit dans des maisons, on les voit un peu partout. Ils sont à la croisée des chemins. À nous aussi de savoir quels sont ces chemins afin de pouvoir inviter ces personnes à écouter l'Évangile, avoir ces personnes à notre, disponible pour que nous puissions, accessible plutôt, leur annoncer l'Évangile. Nous l'avons vu il y a 15 jours avec l'évangéliste Philippe aussi. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, même si peut-être tout à l'heure j'y reviendrai. Quelles étaient les stratégies de Paul? Paul, l'apôtre Paul et Barnabas ont été envoyés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu de grande stratégie. Le grand stratège, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est lui le grand stratège. Qu'est-ce qu'ont-ils fait? Ils ont suivi une direction. Ils sont allés, premièrement, dans l'île de Chypre. On peut se poser la question, mais pourquoi sont-ils allés à Chypre? En lisant dans Actes chapitre 4, verset 36, on a quand même un indice, une réponse, c'est que Barnabas, qui était le compagnon de Paul, était originaire de Chypre. Donc il y avait une logique. Vous voyez, ils ne se sont pas trop posés de questions. Hein. Barnabas, étant originaire de Chypre, connaissait bien la mentalité des personnes de Chypre, des habitants. Il connaissait leur arrière-plan culturel. Il connaissait ça. Donc ils se sont embarqués pour Chypre. Et là, il y a eu la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, a agi. Puis après avoir évangélisé Chypre, ils sont partis au sud de la Turquie. Et après, ils sont revenus à Antioche. Ils se sont séparés. Et là, eh bien, l'apôtre Paul, avec Silas, vont repartir. Ils vont aussi en profiter pour fortifier les églises qu'ils avaient déjà premièrement évangélisées avec Barnabas. C'était aussi une stratégie de Paul, non seulement évangéliser, implanter des églises, mais après affermir ces églises, les fortifier pour qu'à leur tour, ils puissent évangéliser. Parce que l'apôtre Paul allait dans les grands centres urbains, mais c'était ces églises qui étaient implantées, qui après étaient affermies, fortifiées, enseignées, qui allaient évangéliser les villes, les villages des campagnes. C'est eux qui le faisaient à leur tour. Et puis à un moment donné, l'apôtre Paul cherche un peu sa route. L'apôtre Paul, on le voit, c'est quand même quelqu'un qui a un tempérament de fonceur. Il va de l'avant et il se trouve à ce moment-là au sud de la Turquie et il décide d'aller en Asie. Ils y vont avec Silas. Ils partent vers l'Est, vers l'Asie. Sauf que le Saint-Esprit les en empêche. On pourrait se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit les empêche d'aller en Asie, puisque c'est dans le plan de Dieu d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce n'était pas pour Paul et Silas. Faut pas trop chercher à comprendre. D'autres vont aller en Asie. D'autres vont aller en Asie. Selon les historiens de l'Église, il semblerait que ce soit Thomas, l'apôtre Thomas, qui ait évangélisé cette région du monde. Alors, comme ils sont empêchés d'aller vers l'Est en Asie, ils vont au nord de la Turquie, en Bithynie. Ils changent de direction, ils partent vers le nord. Mais là encore, le Seigneur les en empêche. C'est pas pour eux, la Bithynie. Alors ils partent à Troas. Et puis lorsque nous lisons le premier épître de Pierre au chapitre 1er, verset 1er, on voit que l'apôtre Pierre cite la Bithynie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, d'autres ont évangélisé cette région de la Turquie, c'est le nord de la Turquie. D'autres ont évangélisé, des églises ont été implantées dans cette région, mais ce n'a pas été Paul et Silas. D'autres l'ont fait. Ce n'était pas pour eux, parce que Dieu les voulait ailleurs. Et c'est là que, eh bien, ne sachant plus où aller, eh bien, à un moment donné, le Seigneur a parlé au travers de cette vision du Macédonien, passe en Macédoine et secourne-nous. Alors là, la direction, elle est claire, elle est précise. Ça vient du Seigneur. Ils sont allés en Macédoine. Et la Macédoine, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a été dans un lieu de prière. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de synagogue là. Parce que pour avoir une synagogue, il fallait qu'il y ait au moins 10 hommes juifs. Donc il devait y en avoir moins. Mais ils avaient quand même des lieux de prière. Il y avait un lieu de prière au bord d'une rivière. Il y avait là quelques personnes qui étaient réunies, les femmes qui étaient là. Et puis, il y a l'apôtre Paul qui est intervenu et il a annoncé l'Évangile. Il a saisi cette occasion. Vous voyez, il n'y a pas de grande stratégie là-dedans. Il n'y a pas de grande méthode là-dedans. Le cœur de Lydie était prêt à recevoir. Son cœur était ouvert. Elle s'est convertie. Après cela, on aurait pu continuer le chapitre 16. Où l'on voit qu'il y a cet épisode avec la Pythonesse, et puis l'apôtre Paul va aussi aller en prison. Vous voyez, il y a une direction de Dieu. Une des premières choses que Paul fait arrivant en Macédoine, prison. Vous voyez, on peut être dans le plan de Dieu et connaître des difficultés. On peut être dans le plan de Dieu, dans la volonté du Seigneur, et connaître de l'opposition et de l'oppression. L'apôtre Paul est en prison avec Silas, mais là, ça va être l'occasion d'annoncer l'évangile en prison. Alléluia. Et le geôlier va se convertir dans cette prison. Que Dieu soit béni. On voit que l'apôtre Paul saisissait toutes les occasions qui se présentaient à lui. Quelle méthode y a à cela? Quelle stratégie y a-t-il à ça? C'est pour ça que je disais en introduction, n'attendez pas de moi de grandes révélations sur le sujet. Quelle stratégie, quelle méthode ont-ils utilisé? On voit que l'apôtre Paul et Silas, et puis avant cela Barnabas, en fin de compte, ils ont suivi les grands axes de la voie romaine. Les Romains avaient construit des routes, on en a encore dans le sud de la France. Donc, ils ont suivi ces grands axes des voies romaines, tout simplement. Ils se sont pas, poser trop de questions, et puis ainsi que les voies maritimes, et puis là où ils arrivaient, ils annonçaient l'évangile tout simplement, et le Saint-Esprit agissait avec eux. Aujourd'hui, bien sûr, on va me dire que les temps ont changé. C'est vrai, les temps ont changé. Mais nous avons, nous aussi, des méthodes et des outils qu'il nous faut sans cesse adapter. On ne pêche pas quand on change de méthode, quand on change d'outil. On pêche quand l'Église n'évangélise plus, c'est là qu'elle pêche. Prenez bien. Il faut que l'Église évangélise. Les méthodes sont que des outils que Dieu met à notre disposition. On peut changer d'outil, on peut l'adapter selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. En tout cas, puissions-nous nous trouver à la croisée des chemins et savoir aussi changer de direction. Il n'y a pas eu, et j'insiste là-dessus, de grande stratégie. Il y a eu parfois une organisation qui s'est mise en place, puisque en lisant les actes des apôtres, l'épître aux Galates, on voit que l'apôtre Paul a donné la main d'association avec les autres apôtres. Ils ont fait un partenariat afin que lui et Silas aillent vers les païens, et que les autres apôtres, Pierre, Jacques et les autres, aillent évangéliser les Juifs. Donc, ils se sont partagé le travail. Ils se sont organisés. Mais là encore, il n'y avait rien de bien compliqué. Il nous faut vraiment considérer que les méthodes sont des outils que Dieu nous donne. Pendant des années, et moi-même je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, nous avions les réunions dites d'évangélisation le dimanche après-midi. Je pense que vous avez tous connu cela. Fut une période, ces réunions étaient vraiment porteuses de quelque chose. Parce que adaptées au temps et aux circonstances et à la manière de vivre. Mais les temps ont changé. Et personnellement, je dis, peut-être au risque d'être incompris, que ces réunions ne sont plus adaptées. Il se trouve même qu'on pourrait se dire, mais on évangélise puisqu'on fait des réunions le dimanche après-midi, sans pour autant évangéliser, puisqu'en fin de compte, 99% de ceux qui viennent sont des frères et sœurs qui sont déjà convertis. Alors, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit plus efficace? Tout est à nous. Réfléchissons. Lorsque nous étions encore, et je vais en reparler, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne faisait pas de réunion le dimanche après-midi, et pourtant l'Église a connu une croissance. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, tout simplement, vous savez, on s'est dit, il y a quelque chose de très culturel là-bas, il fait très froid sur cette île. La vie se passe à l'intérieur des maisons, elle ne se passe pas dehors, il fait trop froid dehors. Elle se passe à l'intérieur des maisons, et il y a quelque chose de traditionnel, c'est l'après-midi. Les gens s'invitent les uns et les autres et prennent ce qu'on appelle le coup de thé. Ils prennent un thé, mais il n'y a pas que le thé. Il y a les gâteaux, les petits gâteaux, et puis il y a les gros gâteaux avec. Enfin, c'est une table bien garnie avec toutes sortes de pâtisseries, etc. Et les gens s'invitent les uns les autres comme cela. C'est très convivial, c'est très agréable, c'est pas très bon pour la ligne, mais quand même, on en profite. Alors on s'est dit, mais nous aussi, on va faire ça. Et très souvent, on a fait des coups de thé, mais en invitant des personnes, et là, on leur parlait de Jésus. Et vous savez quoi? Ça marche. C'est très extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? En plus, on passe un moment très agréable avec des personnes. On ne se casse pas trop la tête. Et des gens sont venus. Alléluia, écouter l'évangile après, à l'église. Et on bénit le Seigneur. Donc tout est à nous. À nous de voir, de comprendre dans quel, j'allais dire, contexte l'on est. Et de pouvoir faire en sorte d'annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Tout est à nous. Il y a toutes sortes de possibilités. Lorsque nous étions au Pays Basque, là encore, avec la mission intérieure, là, pour ceux qui connaissent un peu le Pays Basque, les gens, il y a beaucoup de monde dans les montagnes. S'il y a beaucoup de monde dans les déserts, il y a beaucoup de monde dans les montagnes aussi. Ils font beaucoup de randonnées. Alors on s'est dit, on va faire des randonnées pour prêcher l'évangile. C'est ce qu'on a fait, et ça a marché. C'est rien de compliqué. En plus, là encore, on passe un bon moment. C'est très agréable en plus, hein. Tout le monde en profite. Alors, voilà, il y a tellement de possibilités. Je ne dis pas qu'il faut faire les mêmes choses ici. Mais en tout cas, ce qui est important pour l'Église, c'est qu'elle puisse s'adapter, adapter ses outils, changer les outils, s'il le faut. Mais l'important, c'est d'apporter l'Évangile et de parler du beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait parler du travail parmi les enfants. On pourrait tellement ajouter de certaines choses, en tout cas. Et puis, sans parler, bien sûr, de tout le travail qui peut se faire dans les maisons. Le Seigneur est celui qui agit. J'avais mis toute une liste, mais ce n'est pas tellement ce qui est important. Ce qui est important, c'est de trouver les moyens de se tenir à la croisée des chemins. Que le Seigneur nous donne des idées. Alléluia. Comme il a donné des idées, hein, aux apôtres. Comme il a donné des idées à ses premiers disciples. Le Seigneur est celui qui peut nous donner des idées avec les talents que nous avons les uns et les autres. Le Seigneur est là, il agit. Mais avec tout cela, ce qui est important, et j'insiste là-dessus, c'est la prière. Parce que le combat spirituel, il est bien réel. Ce n'est pas parce que nous allons faire une collation l'après-midi avec un goûter, puis parler, et puis on passe un bon moment convivial. Ça ne veut pas dire que ça se fait sans difficulté, sans opposition. Il est important que l'Église prie le Seigneur. Le combat, il est intense. Il est spirituel. Les cœurs ont besoin de s'ouvrir au Seigneur. Et si tout cela n'est pas accompagné de prières, ça n'ira pas bien loin. Donc nous voulons aussi considérer l'approche spirituelle que nous voulons avoir vis-à-vis des personnes. Bien sûr, toutes les personnes sont différentes. Là aussi, ça passe par une certaine formation. C'est important. Il est important que l'Église soit affermie. Il est important que l'Église prie. Il est important que l'Église accueille bien les personnes qui viennent en son sein. Il est important de nourrir et d'entretenir une bonne communion fraternelle. Tout cela est important dans le cadre de l'évangélisation, pour faire connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide dans l'avenir. Le Seigneur n'a pas changé, comme je le disais. Il est toujours le même. Le Saint-Esprit agit toujours. Nous sommes toujours dans le temps des actes des apôtres. Et je crois que le Seigneur revient bientôt. Mais d'ici là, nous pouvons vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Amen. On va prier ensemble, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu as nourri notre foi au travers des cantiques. Tu as porté nos regards sur toi parce que tu viens bientôt, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que lorsque tu vas revenir, l'un sera pris, l'autre laissé. Et Seigneur, nous voulons qu'il en ait le moins possible qu'il soit laissé et que le plus grand nombre soit pris. Seigneur, aide-nous encore pouvoir annoncer l'Évangile. D'une manière ou d'une autre, donne-nous ces idées pour nous tenir à la croisée des chemins. À la croisée des chemins pour annoncer ta parole et faire entrer ces personnes dans ton chemin à toi. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore, parce que tes promesses sont toujours pour nous d'actualité. Tu avais pu dire, voici, vous recevrez sur vous une puissance survenant sur vous. Seigneur, nous sommes toujours dans ce temps des actes des apôtres, Seigneur. Et le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, agit au milieu de nous. Et nous te bénissons pour cela. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche et à très bientôt.